Dina laissa parler Lousteau sans le regarder. Mais il y eut un moment où l'improvisation de ce serpent devint si spirituelle sous l'effort qu'il fit pour singer la passion par des phrases et par des idées dont le sens, caché pour Gatien, éclatait dans le cœur de Dina, qu'elle leva les yeux sur lui. Ce regard parut combler de joie Lousteau, qui redoubla de verve et fit enfin rire Madame de la Baudraye. Lorsque, dans une situation où son orgueil est blessé si cruellement, une femme a ri, tout est compromis. Quand on entra dans l'immense cour sablée et ornée de son boulingrin à corbeille de fleurs qui fait si bien valoir la façade d'Anzy, le journaliste disait « Lorsque les femmes nous aiment, elles nous pardonnent tout, même nos crimes. Lorsqu'elles ne nous aiment pas, elles ne nous pardonnent rien, pas même nos vertus. « Me pardonnez-vous » ajouta-t-il à l'oreille de Madame de la Baudraye en lui serrant le bras sur son cœur par un geste plein de tendresse. Dina ne put s'empêcher de sourire. Pendant le dîner et pendant le reste de la soirée, Lousteau fut d'une gaieté, d'un entrain charmant. Mais, tout en peignant ainsi son ivresse, il se livrait par moments à la rêverie en homme qui paraissait absorbé par son bonheur. Après le café, Madame de la Baudraye et sa mère laissèrent les hommes se promener dans les jardins. Monsieur Gravier dit alors au procureur du roi « Avez-vous remarqué que Madame de la Baudraye, qui est partie en robe d'organdi, nous est revenue en robe de velours ?» En montant en voiture à Cône, la robe s'est accrochée à un bouton de cuivre de la calèche et s'est déchirée du haut en bas, répondit Lousteau. « Oh !» fit Gatien, percé au cœur par la cruelle différence des deux explications du journaliste. Lousteau, qui comptait sur cette surprise de Gatien, le prit par le bras et le lui serra pour lui demander le silence. Quelques moments après, Lousteau laissa les trois adorateurs de Dina seuls, en s'emparant du petit La Baudraye. Gatien fut alors interrogé sur les événements du voyage. Monsieur Gravier et Monsieur de Clagny furent stupéfaits d'apprendre que Dina s'était trouvée seule au retour de Cône avec Lousteau, mais plus stupéfaits encore des deux versions du Parisien sur le changement de robe. Aussi l'attitude de ces trois hommes déconfits fut-elle très embarrassée pendant la soirée. Le lendemain matin, chacun d'eux eut des affaires qui l'obligeaient à quitter Anzy, où Dina resta seule avec sa mère, son mari et Lousteau. Le dépit des trois Sancerrois organisa dans la ville une grande clameur. La chute de la muse du Berry, du Nivernais et du Morvan fut accompagnée d'un vrai charivari de médisances, de calomnies et de conjectures diverses, parmi lesquelles figurait en première ligne l'histoire de la robe d'organdi. Jamais toilette de Dina n'eut autant de succès et n'éveilla plus l'attention des jeunes personnes qui ne s'expliquaient point les rapports entre l'amour et l'organdi dont riaient tant les femmes mariées. La présidente Boisrouge, furieuse de la mésaventure de son Gatien, oublia les éloges qu'elle avait prodigués au poème de Paquita la Sévillane. Elle fulmina des censures horribles contre une femme capable de publier une pareille infamie. « La malheureuse fait ce qu'elle a écrit !» disait-elle. « Peut-être finira-t-elle comme son héroïne ?» Il en fut de Dina dans le Sancerrois, comme du maréchal Soult dans les journaux de l'opposition. Tant qu'il est ministre, il a perdu la bataille de Toulouse. Dès qu'il rentre dans le repos, il l'a gagnée. Vertueuse, Dina passait pour la rivale des Camille Maupin, des femmes les plus illustres, mais heureuse, elle était une malheureuse. Monsieur de Clagny défendit courageusement Dina. Il vint à plusieurs reprises au château d'Anzy pour avoir le droit de démentir le bruit qui courait sur celle qu'il adorait toujours, même tombée, et il soutint qu'il s'agissait entre elle et Lousteau d'une collaboration à un grand ouvrage. On se moqua du procureur du roi. Le mois d'octobre fut ravissant. L'automne est la plus belle saison des vallées de la Loire, mais en 1836, il fut particulièrement magnifique. La nature semblait être la complice du bonheur du Dina, qui, selon les prédictions de Bianchon, arriva par degrés à un violent amour de cœur. En un mois, la châtelaine changea complètement. Elle fut étonnée de retrouver tant de facultés inertes, endormies, inutiles jusqu'alors. Lousteau fut un ange pour elle, car l'amour de cœur, ce besoin réel des grandes âmes, faisait d'elle une femme entièrement nouvelle. Dina vivait. Elle trouvait l'emploi de ses forces. Elle découvrait des perspectives inattendues dans son avenir. Elle était heureuse enfin, heureuse sans soucis, sans entraves. Cet immense château, les jardins, le parc, la forêt étaient si favorables à l'amour. Lousteau rencontra chez Madame de la Baudraye une naïveté d'impression, une innocence, si vous voulez, qui la rendit originale. Il y eut en elle du piquant, de l'imprévu, beaucoup plus que chez une jeune fille. Lousteau fut sensible à une flatterie qui chez presque toutes les femmes est une comédie, mais qui chez Dina fut vraie. Elle apprenait de lui l'amour. Il était bien le premier dans ce cœur. Enfin, il se donna la peine d'être excessivement aimable. Les hommes ont, comme les femmes d'ailleurs, un répertoire de récitatifs, de cantilènes, de nocturnes, de motifs, de rentrées, faut-il dire de recettes, quoiqu'il s'agisse d'amour, qu'ils croient leur exclusive propriété. Les gens arrivés à l'âge de Lousteau tâchent de distribuer habilement les pièces de ce trésor dans l'opéra d'une passion. Mais, en ne voyant qu'une bonne fortune dans son aventure avec Dinah, le Parisien voulut graver son souvenir en traits ineffaçables sur ce cœur, et il prodigua durant ce beau mois d'octobre ses plus coquettes mélodies et ses plus savantes barcaroles. Enfin, il épuisa les ressources de la mise en scène de l'amour pour se servir d'une de ces expressions détournées de l'argot du théâtre et qui rend admirablement bien ce manège. « Si cette femme-là m'oublie, se disait-il parfois en revenant avec elle au château d'une longue promenade dans les bois, je ne lui en voudrais pas, elle aura trouvé mieux. » Quand, de part et d'autre, deux êtres ont échangé les duos de cette délicieuse partition et qu'ils se plaisent encore, on peut dire qu'ils s'aiment véritablement. Mais Lousteau ne pouvait pas avoir le temps de se répéter, car il comptait quitter Anzy vers les premiers jours de novembre. Son feuilleton le rappelait à Paris. Avant déjeuner, la veille du départ projeté, le journaliste et Dinah virent arriver le petit La Baudraye avec un artiste de Nevers, un restaurateur de sculptures. « De quoi s'agit-il ? » dit Lousteau. « Que voulez-vous faire à votre château ?»« Voici ce que je veux, » répondit le petit vieillard en emmenant le journaliste, sa femme et l'artiste de province sur la terrasse. Il montra sur la façade, au-dessus de la porte d'entrée, un précieux cartouche soutenu par deux sirènes, assez semblable à celui qui décore l'arcade actuellement condamnée, par où l'on allait jadis du quai des Tuileries dans la cour du Vieux Louvre, et au-dessus de laquelle on lit « Bibliothèque du cabinet du roi ». Ce cartouche offrait le vieil écusson des Duxelles, qui porte d'or et de gueule à la face de l'un et à l'autre, avec deux lions de gueule à dextre et d'or à senestre par support, l'écu timbré du casque de chevalier, lambrequiné des émaux de l'écu et sommet de la couronne ducale. Puis pour devise, six parois, paroles fières et sonnantes. « Je veux remplacer les armes de la maison Duxelles par les miennes. » Et comme elle se trouve répétée six fois dans les deux façades et dans les deux ailes, ce n'est pas une petite affaire. « Vos armes d'hier, s'écria Dinah, et après 1830, n'ai-je pas constitué un majorat ?»« Je concevrais cela si vous aviez des enfants, lui dit le journaliste. « Oh !» répondit le petit vieillard, « Madame de La Baudraye est encore jeune, il n'y a pas encore de temps perdu. » Cette fatuité fit sourire Lousteau, qui ne comprit pas Monsieur de La Baudraye. « Eh bien, Didine, » dit-il à l'oreille de Madame de La Baudraye, « à quoi bon tes remords ?» Dinah plaida pour obtenir un jour de plus, et les deux amants se firent leurs adieux à la manière de ces théâtres qui donnent 10 fois de suite la dernière représentation d'une pièce à recette. Mais combien de promesses échangées, combien de pactes solennels exigés par Dinah et conclus sans difficulté par l'impudent journaliste ! Avec la supériorité d'une femme supérieure, Dinah conduisit, au vu et au su de tout le pays, Lousteau jusqu'à Cône, en compagnie de sa mère et du petit La Baudraye. Quand, 10 jours après, Madame de La Baudraye eut dans son salon à La Baudraye messieurs de Clagny, Gatien et Gravier, elle trouva moyen de dire audacieusement à chacun d'eux « Je dois à Monsieur Lousteau d'avoir su que je n'étais pas aimée pour moi-même ». Et quelle belle tartine elle débita sur les hommes, sur la nature de leurs sentiments, sur le but de leur vil amour, etc. Des trois amants de Dinah, Monsieur de Clagny seul lui dit « Je vous aime quand même ». Aussi Dinah le prit-elle pour confident et lui prodigua-t-elle toutes les douceurs de l'amitié que les femmes confisent pour les gurtes qui portent ainsi le collier d'un esclavage adoré. De retour à Paris, Lousteau perdit en quelques semaines le souvenir des beaux jours passés au château d'Anzy. Voici pourquoi. Lousteau vivait de sa plume. Dans ce siècle, et surtout depuis le triomphe d'une bourgeoisie qui se garde bien d'imiter François Ier ou Louis XIV, vivre de sa plume est un travail auquel se refuseraient les forçats. Ils préféreraient la mort. Vivre de sa plume, n'est-ce pas créer ? Créer aujourd'hui, demain, toujours. Ou avoir l'air de créer. Or, le semblant coûte aussi cher que le réel. Outre son feuilleton dans un journal quotidien qui ressemblait au rocher de Sisyphe et qui tombait tous les lundis sur la barbe de sa plume, Étienne travaillait à 3 ou 4 journaux littéraires. Mais, rassurez-vous, il ne mettait aucune conscience d'artiste à ses productions. Le Sancerrois appartenait par sa facilité, par son insouciance, si vous voulez, à ce groupe d'écrivains appelés du nom de bons enfants. En littérature, à Paris, de nos jours, la bonhomie est une démission donnée de toutes les prétentions à une place quelconque. Lorsqu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus rien être, un écrivain se fait journaliste et bon enfant. On mène alors une vie assez agréable. Les débutants, les bas bleus, les actrices qui commencent et celles qui finissent leur carrière, auteurs et libraires, caressent ou choix, ses plumes à tout faire. Lousteau, devenu viveur, n'avait plus guère que son loyer à payer en fait de dépenses. Il avait des loges à tous les théâtres. La vente des livres dont il rendait ou ne rendait pas compte soldait son gantier. Aussi disait-il à ses auteurs qui s'impriment à leurs frais « J'ai toujours votre livre dans les mains ». Il percevait sur les amours propres des redevances en dessin, en tableau. Tous ses jours étaient pris par des dîners, ses soirées par le théâtre, la matinée par les amis, par des visites, par la flânerie. Son feuilleton, ses articles et les deux nouvelles qu'il écrivait par an pour les journaux hebdomadaires étaient l'impôt frappé sur cette vie heureuse. Étienne avait cependant combattu pendant 10 ans pour arriver à cette position. Enfin connu de toute la littérature, aimé pour le bien comme pour le mal qu'il commettait avec une irréprochable bonhomie, il se laissait aller en dérive, insouciant de l'avenir. Il régnait au milieu d'une coterie de nouveaux venus, il avait des amitiés, c'est-à-dire des habitudes qui duraient depuis 15 ans, des gens avec lesquels il soupait, il dînait et se livrait à ses plaisanteries. Il gagnait environ 700 à 800 francs par mois, somme que la prodigalité particulière aux pauvres rendait insuffisante. Aussi Lousteau se trouvait-il alors aussi misérable qu'à son début à Paris, quand il se disait « Si j'avais 500 francs par mois, je serais bien riche ». Voici la raison de ce phénomène. Lousteau demeurait rue des Martyrs, dans un joli petit rez-de-chaussée à jardin, meublé magnifiquement. Lors de son installation, en 1833, il avait fait avec un tapissier un arrangement qui rogna son bien-être pendant longtemps. Cet appartement coûtait 1200 francs de loyer. Or, les mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre étaient, selon son mot, des mois indigents. Le loyer et les notes du portier faisaient rafle. Lousteau n'en prenait pas moins des cabriolets, n'en dépensait pas moins 100 francs en déjeuner. Il fumait pour 30 francs de cigares et ne savait refuser ni un dîner ni une robe à ses maîtresses de hasard. Il anticipait alors si bien sur le produit toujours incertain des mois suivants qu'il ne pouvait pas plus se voir 100 francs sur sa cheminée en gagnant 700 à 800 francs par mois que quand il en gagnait à peine 200 en 1822. Fatigué parfois de ces tournoiements de la vie littéraire, ennuyé du plaisir comme l'est une courtisane, Lousteau quittait le courant, il s'asseyait parfois sur le penchant de la berge et disait à certains de ses intimes, à Nathan, à Bixiou, tout en fumant un cigare au fond de son jardinet devant un gazon toujours vert, grand comme une table à manger, « Comment finirons-nous? Les cheveux blancs nous font leur sommation respectueuse. » Bah, nous nous marierons quand nous voudrons nous occuper de notre mariage, autant que nous nous occupons d'un drame ou d'un livre, disait Nathan. Et Florine, répondait Bixiou. Nous avons tous une Florine, disait Étienne, en jetant son bout de cigare sur le gazon et pensant à Madame Schontz. Madame Schontz était une femme assez jolie pour pouvoir vendre très cher l'usufruit de sa beauté, tout en conservant la nue propriété à Lousteau, son ami de cœur. Comme toutes ces femmes qui, du nom de l'église autour de laquelle elles se sont groupées, ont été nommées Laurette, elles demeuraient rue Fléchier, à 2 pas de Lousteau. Cette Laurette trouvait une jouissance d'amour-propre à narguer ses amis en se disant aimée par un homme d'esprit. Ces détails sur la vie et les finances de Lousteau sont nécessaires, car cette pénurie et cette existence de bohémien, à qui le luxe parisien était indispensable, devaient cruellement influer sur l'avenir de Dinah. Ceux à qui la bohème de Paris est connue comprendront alors comment, au bout de 15 jours, le journaliste, replongé dans son milieu littéraire, pouvait rire de sa baronne, entre amis, et même avec Madame Schontz. Quant à ceux qui trouveront ces procédés infâmes, il est à peu près inutile de leur en présenter des excuses inadmissibles. « Qu'as-tu fait à Sancerre ?» demanda Bixiou à Lousteau quand ils se rencontrèrent. J'ai rendu service à 3 braves provinciaux, un receveur des contributions, un petit cousin et un procureur du roi, qui tournait depuis 10 ans, répondit-il, autour d'une de ces 101 dixièmes muses qui ornent les départements, sans y plus toucher qu'on ne touche à un plat monté du dessert, jusqu'à ce qu'un esprit fort y donne un coup de couteau. Pauvre garçon, disait Bixiou, je disais bien que tu allais à Sancerre pour y mettre ton esprit au vert. Ton calembour est aussi détestable que ma muse est belle, mon cher, répliqua Lousteau, demanda Bianchon. Une muse et un poète, répondit Bixiou. Ton aventure est alors un traitement homéopathique. » Le dixième jour, Lousteau reçut une lettre timbrée de Sancerre. « Bien, bien, » fit Lousteau. « Ami chéri, idole de mon cœur et de mon âme. 20 pages d'écriture, une par jour est datée de minuit. Elle m'écrit quand elle est seule, pauvre femme. Ha ! Post-scriptum. Je n'ose te demander de m'écrire comme je le fais tous les jours, mais j'espère avoir de mon bien-aimé 2 lignes chaque semaine pour me tranquilliser. Quel dommage de brûler cela, c'est crânement écrit, se dit Lousteau, qui jeta les 10 feuillets au feu après les avoir lus. Cette femme est née pour faire de la copie. Lousteau craignait peu Madame Schontz, de laquelle il était aimé pour lui-même, mais il avait supplanté l'un de ses amis dans le cœur d'une marquise. La marquise, femme assez libre de sa personne, venait quelquefois à l'improviste chez lui le soir en fiacre, voilée, et se permettait, en qualité de femme de lettres, de fouiller dans tous les tiroirs. 8 jours après, Lousteau, qui se souvenait à peine de Dinah, fut bouleversé par un nouveau paquet de Sancerre. 8 feuillets, 16 pages. Il entendit les pas d'une femme, il crut à quelques visites domiciliaires de la marquise et jeta ses ravissantes et délicieuses preuves d'amour au feu, sans les lire. « Une lettre de femme !» s'écria Madame Schontz en entrant. « Le papier et la cire sentent trop bon !»« Monsieur, voici !» dit un facteur des messageries en posant dans l'antichambre 2 énormissimes bourriches. « Tout est payé. Voulez-vous signer mon registre ?»« Tout est payé !» s'écria Madame Schontz. « Ça ne peut venir que de Sancerre. »« Oui, madame, » dit le facteur. « Ta 10e muse est une femme de haute intelligence, » dit la Lorette, en défaisant une bourriche pendant que Lousteau signait. « J'aime une muse qui connaît le ménage et qui fait à la fois des pâtés d'encre et des pâtés de gibier. »« Oh, les belles fleurs !» s'écria-t-elle, en découvrant la seconde bourriche. « Mais il n'y a rien de plus beau dans Paris. De quoi ? De quoi ? Un lièvre, des perdreaux, un demi-chevreuil ? Nous inviterons tes amis et nous ferons un fameux dîner, car Athalie possède un talent particulier pour accommoder le chevreuil. » Lousteau répondit à Dinah, mais au lieu de répondre avec son cœur, il fit de l'esprit. La lettre n'en fut que plus dangereuse, elle ressemblait à une lettre de Mirabeau à Sophie. Le style des vrais amants est limpide, c'est une eau pure qui laisse voir le fond du cœur entre 2 rives ornées des riens de la vie, émaillées de ces fleurs de l'âme nées chaque jour, et dont le charme est enivrant, mais pour 2 êtres seulement. Aussi, dès qu'une lettre d'amour peut faire plaisir au tiers qui la lit, est-elle à coup sûr sortie de la tête et non du cœur. Mais les femmes y seront toujours prises, elles croient alors être l'unique source de cet esprit. Vers la fin du mois de décembre, Lousteau ne lisait plus les lettres de Dinah qui s'accumulèrent dans un tiroir de sa commode, toujours ouvert, sous ses chemises qu'elle parfumait. Il advenait à Lousteau l'un de ces hasards que ces bohémiens doivent saisir par tous ses cheveux. Au milieu de ce mois, Madame Schontz, qui s'intéressait beaucoup à Lousteau, le fit prier de passer chez elle un matin pour affaire. « Mon cher, tu peux te marier, » lui dit-elle. « Souvent, ma chère, heureusement. Quand je dis te marier, c'est faire un beau mariage. » Tu n'as pas de préjugés, on n'a pas besoin de gazer, voici l'affaire. Une jeune personne a commis une faute, et la mère n'en sait pas le premier baiser. Le père est un honnête notaire, plein d'honneur, il a eu la sagesse de ne rien ébruiter. Il veut marier sa fille en 15 jours, il donne une dot de 150 000 francs, car il a 3 autres enfants. Mais, pas bête, il ajoute un supplément de 100 000 francs de la main à la main pour couvrir le déchet. Il s'agit d'une vieille famille de la bourgeoisie parisienne, quartier des Lombards. Eh bien, pourquoi l'amant n'épouse-t-il pas ? Mort. Quel roman ! Il n'y a plus que rue des Lombards où les choses se passent ainsi. Mais ne vas-tu pas croire qu'un frère jaloux a tué le séducteur ? Ce jeune homme est tout bêtement mort d'une pleurésie, attrapé en sortant du spectacle. Premier clerc et sans un liard, mon homme avait séduit la fille pour avoir l'étude. Voilà une vengeance du ciel. D'où sais-tu cela ? De Malaga, le notaire et son milord. Quoi ? C'est Cardo, le fils de ce petit vieillard à queue et poudre, le premier ami de Florentine ? Précisément. Malaga, dont l'amant est un petit criquet de musicien de 18 ans, ne peut pas en conscience le marier à cet âge-là. Elle n'a encore aucune raison de lui en vouloir. D'ailleurs, M. Cardo veut un homme d'au moins 30 ans. Ce notaire, selon moi, sera très flatté d'avoir pour gendre une célébrité. Ainsi tâte-toi, mon bonhomme. Tu payes tes dettes, tu deviens riche de 12 000 francs de rente et tu n'as pas l'ennui de te rendre père. En voilà des avantages. Après tout, tu épouses une veuve consolable. Il y a 50 000 livres de rente dans la maison, outre la charge. Tu ne peux donc pas avoir un jour moins de 15 000 francs de rente, et tu appartiens à une famille qui, politiquement, se trouve dans une belle position. Cardo est le beau-frère du vieux Camusot, le député, qui est resté si longtemps avec Fanny Beaupré. Oui, dit Lousteau. Camusot le père a épousé la fille aînée à feu le petit père Cardo, et ils faisaient leur farce ensemble. Eh bien, reprit Madame Schontz, Madame Cardo, la notaresse, est une Chiffreville, des fabricants de produits chimiques. L'aristocratie d'aujourd'hui, quoi, des potasses. Là est le mauvais côté. Tu auras une terrible belle-mère. Oh, une femme a tué sa fille, si elle la savait, dans l'état où... Cette Cardo est dévote. Elle a les lèvres comme de faveur d'un rose passé. Un viveur comme toi ne serait jamais accepté par cette femme-là, qui, dans une bonne intention, espionnerait ton ménage de garçon et saurait tout ton passé. Mais Cardo fera, dit-il, usage de son pouvoir paternel. Le pauvre homme sera forcé d'être gracieux pendant quelques jours pour sa femme, une femme de bois, mon cher. Malaga, qui l'a rencontrée, l'a nommée une brosse de pénitence. Cardo a 40 ans, il sera maire dans son arrondissement, il deviendra peut-être député. Il offre à la place des 100 000 francs de donner une jolie maison rue Saint-Lazare, entre cour et jardin, qui ne lui a coûté que 60 000 francs à la débâcle de juillet. Il te la vendrait, histoire de te fournir l'occasion d'aller et venir chez lui, de voir la fille, de plaire à la mère. Cela te constituerait un avoir aux yeux de Madame Cardo. Enfin, tu serais comme un prince dans ce petit hôtel. Tu te feras nommer, par le crédit de Camusot, bibliothécaire à un ministère où il n'y aura pas de livres. Eh bien, si tu places ton argent en cautionnement de journal, tu auras 10 000 francs de rente, tu en gagnes 6, ta bibliothèque t'en donnera 4. Trouve mieux. Tu te marierais à un agneau sans tache, il pourrait se changer en femme légère au bout de 2 ans. Que t'arrive-t-il? Un dividende anticipé, c'est la mode. Si tu veux m'en croire, il faut venir dîner demain chez Malaga. Tu y verras ton beau-père. Il saura l'indiscrétion, censée commise par Malaga contre laquelle il ne peut pas se fâcher, et tu le domines alors. Quant à ta femme, mais sa faute te laisse garçon. Ah, ton langage n'est pas plus hypocrite qu'un boulet de canon. Je t'aime pour toi, voilà tout, et je raisonne. Eh bien, qu'as-tu à rester là comme un Abdelkader en cire? Il n'y a pas à réfléchir, c'est pile ou face le mariage. Eh bien, tu as tué pile? Tu auras ma réponse demain, dit Lousteau. J'aimerais mieux l'avoir tout de suite. Malaga ferait l'article pour toi ce soir. Eh bien, oui. Lousteau passa la soirée à écrire à la marquise une longue lettre où il lui disait les raisons qui l'obligeaient à se marier. Sa constante misère, la paresse de son imagination, les cheveux blancs, sa fatigue morale et physique. Enfin, 4 pages de raisons. Quant à Dinah, je lui enverrai le billet de faire part, se dit-il. Comme dit Bixiou, je n'ai pas mon pareil pour savoir couper la queue à une passion. Lousteau, qui fit d'abord des façons avec lui-même, en était arrivé le lendemain à craindre que ce mariage manquât. Aussi fut-il charmant avec le notaire. « J'ai connu, lui dit-il, monsieur votre père, chez Florentine. Je devais vous connaître chez mademoiselle Turquet. Bon chien chasse de race. Il était très bon enfant, et philosophe, le petit père Cardo, car, vous permettez, nous l'appelions ainsi. Dans ce temps-là, Florine, Florentine, Tullia, Coralie et Mariette étaient comme les 5 doigts de la main. Il y a de cela maintenant 15 ans. Vous comprenez que mes folies ne sont plus à faire. Dans ce temps-là, le plaisir m'emportait. J'ai de l'ambition aujourd'hui. Mais nous sommes dans une époque où pour parvenir, il faut être sans dette, avoir une fortune, femme et enfant. Si je paye le cens, je suis propriétaire de mon journal au lieu d'en être un rédacteur. Je deviendrai député, tout comme tant d'autres. » Maître Cardo goûta cette profession de foi. Lousteau s'était mis sous les armes. Il plut au notaire qui, chose assez facile à concevoir, eut plus d'abandon avec un homme qui avait connu les secrets de la vie de son père qu'il n'en aurait eu avec tout autre. Le lendemain, Lousteau fut présenté, comme acquéreur de la maison rue Saint-Lazare, au sein de la famille Cardo, et il y dîna 3 jours après. Cardo demeurait dans une vieille maison auprès de la place du Châtelet. Tout était cossu chez lui. L'économie y mettait les moindres dorures sous des gazes vertes. Les meubles étaient couverts de housse. Si l'on n'éprouvait aucune inquiétude sur la fortune de la maison, on y éprouvait une envie de bâiller dès la première demi-heure. L'ennui siégeait sur tous les meubles. Les draperies pendaient tristement. La salle à manger ressemblait à celle d'Harpagon. Lousteau n'eût pas connu Malaga d'avance. À la seule inspection de ce ménage, il aurait deviné que l'existence du notaire se passait sur un autre théâtre. Le journaliste aperçut une grande personne blonde, à l'œil bleu, timide et langoureux à la fois. Il plut au frère aîné, 4e clerc de l'étude, que la gloire littéraire attirait dans ses pièges et qui devait être le successeur de Cardo. La sœur cadette avait 12 ans. Lousteau, caparaçonné d'un petit air jésuite, fit l'homme religieux et monarchique avec la mère. Il fut sobre, doucereux, posé, complémentaire. 20 jours après la présentation, au 4e dîner, Félicie Cardot, qui étudiait Lousteau du coin de l'œil, alla lui offrir sa tasse de café dans une embrasure de fenêtre et lui dit à voix basse, les larmes dans les yeux. « Toute ma vie, monsieur, sera employée à vous remercier de votre dévouement pour une pauvre fille. » Lousteau fut ému, tant il y avait de choses dans le regard, dans l'accent, dans l'attitude. « Elle ferait le bonheur d'un honnête homme, se dit-il, en lui pressant la main pour toute réponse. » Madame Cardot regardait son gendre comme un homme plein d'avenir, mais, parmi toutes les belles qualités qu'elle lui supposait, elle était enchantée de sa moralité. Soufflée par le roué notaire, Étienne avait donné sa parole de n'avoir ni enfant naturel, ni aucune liaison qui pût compromettre l'avenir de la chère Félicie. « Vous pouvez me trouver un peu exagérée, » disait la dévote au journaliste, « mais quand on donne une perle comme ma Félicie à un homme, on doit veiller à son avenir. Je ne suis pas de ces mères qui sont enchantées de se débarrasser de leur fille. Monsieur Cardot va de l'avant, il presse le mariage de sa fille, il le voudrait fait. Nous ne différons qu'en ceci. » Quoiqu'avec un homme comme vous, monsieur, un littérateur dont la jeunesse a été préservée de la démoralisation actuelle par le travail, on puisse être en sûreté. Néanmoins, vous vous moqueriez de moi si je mariais ma fille les yeux fermés. Je sais bien que vous n'êtes pas un innocent, et j'en serais bien fâchée pour ma Félicie. » Ceci fut dit à l'oreille. « Mais si vous aviez de ces liaisons... Tenez, monsieur, vous avez entendu parler de Madame Roguin, la femme d'un notaire, qui a eu malheureusement pour notre corps une si cruelle célébrité. » Madame Roguin est liée, et cela depuis 1820, avec un banquier. « Oui, Du Tillet, » répondit Étienne, qui se mordit la langue en songeant à l'imprudence avec laquelle il avouait connaître Du Tillet. « Eh bien, monsieur, si vous étiez mère, ne trembleriez-vous pas en pensant que votre fille peut avoir le sort de Madame Du Tillet ? À son âge, et née de Granville, avoir pour rivale une femme de 50 ans passée, j'aimerais mieux voir ma fille morte que de la donner à un homme qui aurait des relations avec une femme mariée. Une grisette, une femme de théâtre, se prennent et se quittent. Selon moi, ces femmes-là ne sont pas dangereuses. L'amour est un état pour elles. Elles ne tiennent à personne. Un de perdu, deux de retrouvé. Mais une femme qui a manqué à ses devoirs doit s'attacher à sa faute. Elle n'est excusable que par sa constance, si jamais un pareil crime est excusable. C'est ainsi du moins que je comprends la faute d'une femme comme il faut. Et voilà ce qui la rend si redoutable. » Au lieu de chercher le sens de ces paroles, Étienne en plaisanta chez Malaga, où il se rendit avec son futur beau-père, car le notaire et le journaliste étaient au mieux ensemble. Lousteau s'était déjà posé devant ses intimes comme un homme important. Sa vie allait enfin avoir un sens, le hasard l'avait choyé, il devenait sous peu de jours propriétaire d'un charmant petit hôtel rue Saint-Lazare, il se mariait, il épousait une femme charmante, il aurait environ 20 000 livres de rente, il pourrait donner carrière à son ambition, il était aimé de la jeune personne, il appartenait à plusieurs familles honorables. Enfin, il voguait à pleine voile sur le lac bleu de l'espérance. Madame Cardot avait désiré voir les gravures de Gil Blas, un de ses livres illustrés que la librairie française entreprenait alors, et Lousteau la veille en avait remis les premières livraisons à Madame Cardot. La notaresse avait son plan. Elle n'empruntait le livre que pour le rendre. Elle voulait un prétexte de tomber à l'improviste chez son gendre futur. À l'aspect de ce ménage de garçon, que son mari lui peignait comme charmant, elle en saurait plus, disait-elle, qu'on ne lui en disait sur les mœurs de Lousteau. Sa belle-sœur, Madame Camusot, à qui le fatal secret était caché, s'effrayait de ce mariage pour sa nièce. Monsieur Camusot, conseiller à la cour royale, fils d'un premier lit, avait dit à sa belle-mère, Madame Camusot, sœur de Maître Cardot, des choses peu flatteuses sur le compte du journaliste. Lousteau, cet homme si spirituel, ne trouva rien d'extraordinaire à ce que la femme d'un riche notaire voulût voir un volume de 15 francs avant de l'acheter. Jamais l'homme d'esprit ne se baisse pour examiner les bourgeois qui lui échappent à la faveur de cette inattention, et pendant qu'ils se moquent d'eux, ils ont le temps de le garrotter. Dans les premiers jours de janvier 1837, Madame Cardot et sa fille prirent une urbaine et vinrent rue des Martyrs rendre les livraisons de Gil Blas au futur de Félicie, enchantées toutes deux de voir l'appartement de Lousteau. Ces sortes de visites domiciliaires se font dans les vieilles familles bourgeoises. Le portier d'Étienne ne se trouva point, mais sa fille, en apprenant de la digne bourgeoise qu'elle parlait à la belle-mère et à la future de Monsieur Lousteau, leur livra d'autant mieux la clé de l'appartement que Madame Cardot lui mit une pièce d'or dans la main. Il était alors environ midi. l'heure à laquelle le journaliste revenait de déjeuner du café anglais. En franchissant l'espace qui se trouve entre Notre-Dame de Lorette et la rue des Martyrs, Loustau regarda par hasard un fiacre qui montait par la rue du Faubourg-Montmartre et crut avoir une vision en y apercevant la figure de Dina. Il resta glacé sur ses deux jambes en trouvant effectivement sa Didine à la portière. « Que viens-tu faire ici ? » s'écria-t-il. Le « vous » n'était pas possible avec une femme à renvoyer. « Eh, mon amour ! » s'écria-t-elle. « N'as-tu donc pas lu mes lettres ?»« Si, » répondit Loustau. « Eh bien ? » ?»«
Eh bien ?»«
Tu es père ?» répondit la femme de province.
« Bah !» s'écria-t-il sans prendre garde à la barbarie de cette exclamation.
« Enfin !» se dit-il en lui-même. « Il faut la préparer à la catastrophe. » Il fit signe au cocher de s'arrêter, donna la main à Madame de la Baudraye et laissa le cocher avec la voiture pleine de mal, en se promettant bien de renvoyer illico, se dit-il, la femme et ses paquets d'où elle venait.
« Monsieur, monsieur !» cria la petite Pamela.
L'enfant avait de l'intelligence et savait que trois femmes ne doivent pas se rencontrer dans un appartement de garçon. « Bien, bien !» fit le journaliste en entraînant Dina. Pamela crut alors que cette femme inconnue était une parente. Elle ajouta cependant, « La clé est à la porte, votre belle-mère y est !» Dans son trouble, et en s'entendant dire par Madame de la Baudraye une myriade de phrases, Étienne entendit « Ma mère y est », la seule circonstance qui pour lui fut possible, et il entra. La future et la belle-mère, alors dans la chambre à coucher, se tapirent dans un coin en voyant l'entrée d'Étienne et d'une femme.
« Enfin, mon Étienne, mon ange, je suis à toi pour la vie !» s'écria Dina en lui sautant au cou et l'étreignant pendant qu'il mettait la clé en dedans. « La vie était une agonie perpétuelle pour moi dans ce château d'Anzy. Je n'y tenais plus. Et le jour où il a fallu déclarer ce qui fait mon bonheur, eh bien, je ne m'en suis jamais senti la force. Je t'amène ta femme et ton enfant. Oh ! Ne pas m'écrire, me laisser 2 mois sans nouvelles. Mais, Dina, tu me mets dans un embarras. M'aimes-tu ? Comment ne t'aimerais-je pas ? Mais ne valait-il pas mieux rester à Sancerre ? Je suis ici dans la plus profonde misère et j'ai peur de te la faire partager. » « Ta misère sera le paradis pour moi. Je veux vivre ici sans jamais en sortir. »« Mon Dieu, c'est joli en paroles, mais... »
Dina s'assit et fondit en larmes en entendant cette phrase dite avec brusquerie. Loustau ne put résister à cette explosion. Il serra la baronne dans ses bras et l'embrassa.
« Ne pleure pas, Didine » s'écria-t-il.
En lâchant cette phrase, le feuilletoniste aperçut dans la glace le fantôme de Madame Cardot qui, du fond de la chambre, le regardait. « Allons, Didine, va toi-même avec Pamela voir à déballer tes malles, » lui dit-il à l'oreille. « Va, ne pleure pas, nous serons heureux. » Il la conduisit jusqu'à la porte et revint vers la notaresse pour conjurer l'orage. « Monsieur, » lui dit Madame Cardot, « je m'applaudis d'avoir voulu voir par moi-même le ménage de celui qui devait être mon gendre. Dû ma Félicie en mourir, elle ne sera pas la femme d'un homme tel que vous. Vous vous devez au bonheur de votre Didine, monsieur. » Et la dévote sortit, en emmenant Félicie qui pleurait aussi, car Félicie s'était habituée à Loustau. L'affreuse Madame Cardot remonta dans son urbaine en regardant avec une insolente fixité la pauvre Dina, qui sentait encore dans son cœur le coup de poignard du « c'est joli en paroles », mais qui, semblable à toutes les femmes aimantes, croyait néanmoins au « ne pleure pas, Didine ». Loustau, qui ne manquait pas de cette espèce de résolution que donnent les hasards d'une vie agitée, se dit « Didine a de la noblesse. Une fois prévenue de mon mariage, elle s'immolera à mon avenir, et je sais comment m'y prendre pour l'en instruire. » Enchanté de trouver une ruse dont le succès lui parut certain, il se mit à danser sur un air connu. Larif, la fla fla. Puis, une fois Didine emballée, reprit-il en se parlant à lui-même, « J'irai faire une visite et un roman à Maman Cardot. J'aurai séduit sa Félicie à Saint-Eustache. » Félicie, coupable par amour, porte dans son sein le gage de notre bonheur. Et Larry, fla, 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 le père ne peut pas me démentir, fla, fla, ni la fille, Larry, fla. Ergo, le notaire, sa femme et sa fille sont enfoncés, Larry, fla, fla, fla. À son grand étonnement, Dina surprit Étienne dansant une danse prohibée. « Ton arrivée et notre bonheur me rendent ivre de joie, » lui dit-il, en lui expliquant ainsi ce mouvement de folie.
« Et moi qui ne me croyais plus aimée ?» s'écria la pauvre femme en lâchant le sac de nuit qu'elle apportait et pleurant de plaisir sur le fauteuil où elle se laissa tomber.
« Emménage-toi, mon ange, » dit Étienne en riant sous cape. « J'ai 2 mots à écrire afin de me dégager d'une partie de garçon, car je veux être tout à toi.
Commande, tu es ici chez toi. » Étienne écrivit à Bixiou. « Mon cher, ma baronne me tombe sur les bras et va me faire manquer mon mariage si nous ne mettons pas en scène une des ruses les plus connues des mille et un vaudevilles du gymnase. Donc je compte sur toi pour venir, en vieillard de Molière, gronder ton neveu Léandre sur sa sottise pendant que la dixième muse sera cachée dans ma chambre. Il s'agit de la prendre par des sentiments. Frappe fort, sois méchant, blesse-la. Quant à moi, tu comprends, j'exprime un dévouement aveugle. Viens si tu peux, à 7 heures. Tout à toi, Étienne Lousteau. » Une fois cette lettre envoyée par un commissionnaire à l'homme de Paris qui se plaisait le plus à ses railleries, que les artistes ont nommé des charges, Lousteau parut empressé d'installer chez lui sa muse de Sancerre. Il s'occupa de l'emménagement, de tous les effets qu'elle avait apportés. Il la mit au fait des êtres et des choses du logis, avec une bonne foi si parfaite, avec un plaisir qui débordait si bien en paroles et en caresses, que Dinah put se croire la femme du monde la plus aimée.